Madame, monsieur, bonsoir.
Jusqu'alors, nous avions essayé de ne pas trop montrer notre inquiétude à propos du sort d'Alain Colas.
Le radar a été perdu vers 19h à la hauteur du Mont Saint-Odile, près de Strasbourg.
Et sur le mur, écrit avec des lettres de sang, Omar, le nom du jardinier.
Il est certain que ce jugement est à l'image même du désarroi des juges devant cette loi sur l'avortement.
Fait d'hier.
Qui a tendu la main à Gabriel lorsque les loups se sont jetés sur elle pour la punir d'avoir aimé d'amour.
Chaque mois, Femme Actuelle Senior vous replonge dans une affaire qui a défrayé la chronique. Revivez les événements comme si vous y étiez et découvrez le fin mot de l'histoire. Dans cet épisode, Gabriel Russier, l'amour à mort. Le 1er novembre 1968 dans les Pyrénées, à la sortie d'Argenès. En cette journée de Toussaint, grise et morne, on ne peut pas rater la Diane rouge pétard garée au bord du chemin, qui tranche avec les montagnes recouvertes de neige. Un grand jeune homme barbu se précipite vers la frêle silhouette qui vient de sortir du véhicule. Le couple s'enlace passionnément. La jeune femme a les cheveux bruns coupés très courts, les yeux verts, et le visage pointu, comme le museau d'un chat. Son pantalon, pas de def, lui donne un air de hippie androgyne. Lui a un corps athlétique et une tête de métèque, comme le chante alors Georges Moustaki. On dirait deux adolescents, ou presque. Car elle, c'est Gabrielle Russier, une jeune femme de 32 ans, divorcée et mère de deux enfants. Elle est professeure de français. Et ce jeune homme, qui l'embrasse fougueusement, c'est Christian Rossi, un lycéen de 17 ans, l'un de ses anciens élèves. Depuis quelques mois, ils forment un couple sulfureux, dont l'histoire va bientôt défrayer la chronique. Et la justice et la société vont s'acharner à désunir ces deux amants qui ont osé vivre leur amour. Quand ils se retrouvent, ce 1er novembre 68, sur une route des Pyrénées, les deux amoureux ne se sont pas vus depuis plusieurs semaines. Pour ce rendez-vous secret, Christian est venu à vélo, sous la pluie. Il a pédalé comme un fou pour retrouver Gatito, comme il surnomme Gabriel. La jeune femme, elle, a avalé d'une traite les 600 km de lacets depuis Marseille, où elle habite. Juste pour rejoindre son amant, le serrer dans ses bras, lui redonner courage. Car depuis 15 jours, le jeune homme est pensionnaire dans un établissement scolaire des Pyrénées. Ses parents l'y ont expédié à cause de sa liaison avec Gabrielle. Mais cette séparation brutale n'a pas éteint la flamme. Bien au contraire. Sans Gabrielle, Christian s'étiole. Il ne mange plus. Il ne dort plus. Il se bagarre pour un rien. Les deux amants s'étreignent, pleurent. Ils ne pensent qu'à une seule chose, aller à l'hôtel des fleurs pour s'aimer. Vivre leur passion. Descendre à l'hôtel des fleurs, ils n'en ont pas le temps. Surgit de nulle part, une fourgonnette Peugeot noire s'arrête à leur hauteur. Deux gendarmes en sortent et embarquent le couple. À son insu, Gabrielle a été suivie depuis Marseille. Les gendarmes n'ont eu qu'à constater le flagrant délit du baiser échangé. Mission accomplie. Les ordres sont les ordres. Même si Gabrielle Russier, avec son 1m57 pour 45 kg et sa sensibilité à fleur de peau, n'a rien d'une dangereuse prédatrice prête à ne faire qu'une bouchée de l'innocence d'un mineur. D'ailleurs, ces 15 ans d'écart avec Christian se remarquent à peine quand on les voit ensemble. Ils ont l'air si amoureux, si complémentaires. Un beau couple, pourrait-on dire. À la gendarmerie, Christian ne se laisse pas faire. On veut le reconduire à l'internat, il se cabre. Effondrée, honteuse d'être traitée comme une délinquante, Gabrielle supplie le jeune homme de retourner à ses études et de patienter jusqu'à Noël. En larmes, elle rentre seule à Marseille.
Je crois que
l'esprit bouillonnant et joyeux de mai 68, qui a vu naître leur amour, lui semble déjà loin.
Ouais,
Loin aussi les ardeurs révolutionnaires, les slogans romantiques, ces fameux « faites l'amour, pas la guerre », « sous les pavés, la plage » et autres « vivre, c'est aimer » que Gabriel a placardé dans son salon. Comment la situation a-t-elle pu se dégrader à ce point ? Se demande la jeune femme. Pourquoi tant de haine ? Pourquoi cet acharnement à les séparer ? Qu'ont-ils fait de mal, à part s'aimer, juste s'aimer ? Croire en ses rêves, les accomplir, se faire confiance, voilà ce que Gabriel enseigne à sa classe de seconde C au lycée Saint-Exupéry, un établissement de très bonne réputation dans lequel elle travaille depuis la rentrée 67. Christian fait partie de ses élèves. Dans ce quartier de Marseille, environ 2500 gamins, issus de familles ouvrières et immigrées, y côtoient ceux des familles bourgeoises. Un parfait échantillon de la jeunesse française. Gabrielle Russier y a décroché son premier poste d'enseignante à l'issue d'un parcours exemplaire. Après son divorce, elle a repris ses études, gagné un concours de l'éducation nationale et, en moins de 6 ans, elle a réussi une licence de lettres, un diplôme d'études supérieures consacré au nouveau roman, puis l'agrégation. Un sans faute. Elle vit dans un coquet appartement de Marseille avec ses jumeaux de 10 ans, Joël et Valérie. À 30 ans, c'est une maman très tendre, mais stricte. Cette jeune femme passionnée, toujours prête à s'enflammer pour les causes qui lui tiennent à cœur, est la fille unique d'un avocat protestant et d'une mère pianiste. Élève brillante, elle a grandi à Paris, dans l'amour de la musique et de la littérature. Partout où elle passe, on remarque sa fougue, son énergie communicative, sa curiosité, sa joie de vivre, mais aussi son caractère de bûcheuse et son sérieux. En arrivant au lycée Nord, elle paraît très jeune, presque timide. Ses élèves de seconde C la prennent d'abord pour une des leurs. Très vite, elle impose sa singularité. Pas de cours magistraux sur une estrade, pas d'autoritarisme. Comme un avant-goût du renouveau de mai 68, Gabrielle Russier initie des discussions à bâton rompu avec les ados qui la tutoient, assis en rond autour d'elle. Il la surnomme affectueusement Gatito, petit chat en espagnol. Avant ses collègues, elle perçoit le malaise de la jeunesse vis-à-vis d'une société dans laquelle elle ne se reconnaît pas. Elle s'intéresse aux problèmes qu'ils rencontrent dans leur famille, souvent défavorisés, à leurs rêves. Gabrielle leur prête des livres, les emmène au cinéma, au ski le dimanche. Elle poursuit des conversations au café après les cours. Elle les reçoit chez elle s'ils veulent se confier, les encourage.
C'était plus la professeure de français, c'était la copine, c'était l'amie, c'était celle qui nous comprenait. Elle ne nous entraînait pas, elle était avec nous, mais ce n'était pas un leader.
Ce regard bienveillant, ces attentions, cette écoute comptent beaucoup quand on a 16 ans. Et le résultat se voit. Les élèves travaillent d'arrache-pied. Les parents et les enseignants louent ses méthodes et lui font confiance.
L'UNEF et le SNESUP ont donné rendez-vous aux étudiants à 18h30.
Quand les pénuries d'essence, les grèves et les manifs éclatent au début du mois de mai, Gabrielle fait office de chauffeur bénévole pour ses étudiants contestataires et court d'une AG à une autre. Elle propose tout naturellement d'aller chercher chez lui Christian Rossi, l'un de ses élèves. D'origine piémontaise, il est délégué de classe et militant communiste, comme ses parents. Gabrielle les connaît bien. Elle apprécie ces gens ouverts, prof à la faculté d'Aix. La révolution est en marche. Le père de Christian, militant de gauche, assiste aux assemblées générales. Il prend la parole pour défendre les libertés individuelles. Mais un jour, au sortir d'une assemblée politique à l'université d'Aix, il apostrophe furieusement Gabrielle. « Je vous demande de cesser de voir mon fils. Laissez-le tranquille. Vous allez finir par coucher avec lui. » Gabrielle est atterrée. Christian aussi. Et pourtant, la colère de Monsieur Rossi agit comme un révélateur. Oui, ils s'aiment. Mais cette idylle naissante entre une femme divorcée, professeur de surcroît, et un jeune homme certes mature, un garçon qui fait plus que son âge, mais encore mineur, risque fort de déclencher un scandale. Alors, Gabrielle prend peur. Elle résiste à ses sentiments et ordonne à Christian de ne plus chercher à la voir. Mais c'est peine perdue. Un soir, à la fin du printemps, il menace de défoncer sa porte. Gabrielle le laisse entrer. L'esprit de mai est passé par là. Il a fini par balayer ses appréhensions. 20 fois, elle s'en mordra les doigts. Cette idylle est un outrage aux yeux de la société et de la justice. En tant qu'enseignante, elle a autorité morale sur ses élèves. 20 fois, elle essaiera de rompre. 20 fois, Christian reviendra à la charge. Les deux tourtereaux se retrouvent dans de petits restaurants ou au cinéma. Ils se baladent main dans la main, comme tous les amoureux. Mais les parents de Christian le surveillent. Gabrielle est persuadée qu'une explication franche avec M. Rossi peut le convaincre de la sincérité de son amour pour son fils. Quelle erreur! Quand il apprend que Christian et Gabrielle ont voyagé ensemble en Italie, alors qu'il le croyait en Sicile avec un copain, puis qu'elle a filé le chercher en Allemagne à la fin de l'été, et qu'ils ont passé 8 jours à roucouler à Marseille avant la rentrée, il se sent roulé. Entre Christian et ses parents, qui menacent et insultent la jeune femme, la tension monte. Christian fugue et se réfugie chez Gabrielle, qui vit dans la crainte de ce qui va advenir. De plus en plus angoissée par la situation, elle tombe malade. Incapable d'assurer ses cours, elle sollicite un congé maladie. Grâce à une indiscrétion, les parents Rossi apprennent où leur fils a trouvé refuge. Ils mandatent alors une assistante sociale qui vient chercher Christian le 9 octobre chez Gabrielle et l'envoie en pension dans les Pyrénées quelques jours plus tard. Gabrielle promet de venir le voir et elle tient parole. C'est à partir de là que tout s'emballe. Après son interpellation sur la petite route de campagne avec Gabrielle et son retour forcé à l'internat, Christian enrage. Le 14 novembre, il s'enfuit, s'installe dans une cabane de chantier à Marseille et retrouve Gabrielle clandestinement. Ce sont leurs derniers beaux jours ensemble. Les deux amoureux ne le savent pas, mais M. Rossi a porté plainte contre la prof de lettres pour détournement de mineurs. Le juge Bernard Palanque la convoque le 4 décembre 68. Pendant l'audition, elle lui tient tête. Oui, elle aime Christian. Non, elle ne l'a pas débauché. Les mœurs ont changé. Mais une fois lancée, la justice lâche rarement. Les policiers ramènent Gabrielle le soir même chez elle pour fouiller son appartement. La perquisition dure 6 heures. Les policiers retournent sa lingerie, dévastent ses tiroirs, mettent sans dessus dessous sa cuisine. Et si, en plus, elle cachait de la drogue. Transférée dans la foulée au centre pénitentiaire des Baumettes, elle découvre le monde sordide de la prison. Les taulardes se moquent d'elle. Quand il apprend son incarcération, Christian fonce chez le juge pour négocier sa libération. Et ça marche. Gabrielle sort de prison le 12 décembre. Mais, sans s'en rendre compte, le jeune homme s'est jeté dans la gueule du loup. À la demande de ses parents, il est aussitôt bouclé dans un centre d'observation pour mineurs délinquants, puis interné le 3 février 69 dans un hôpital psychiatrique. Le traitement est rude. 2 cures de sommeil, des médicaments ingurgités de force, des piqûres et la chambre d'isolement. Après cette épreuve, Christian est brisé. Il accepte de s'installer à Montpellier chez sa grand-mère, une vieille bigote qu'il déteste. Mais il ne tient pas. Il s'enfuit à nouveau. Il se cache, vit dans la rue. La justice délivre un mandat de recherche pour le retrouver. Dans ces conditions, les deux amants renoncent à se voir. Ce serait trop dangereux. Gabrielle, elle non plus, ne va pas bien. Depuis son incarcération et sa vie privée étalée dans la presse, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Incapable de reprendre son travail, elle s'enferme chez elle. Les parents d'élèves, qui hier l'encensaient, se détournent et interdisent à leurs enfants de la fréquenter. Elle demande aux jeunes gens, qui continuent à la voir en cachette, de l'oublier. Elle leur dit « J'ai voulu vous prouver qu'on pouvait lutter contre la sottise et la laideur. Je me suis cassé la gueule. » Elle sombre dans une dépression terrible. Interrogée par le juge Palanque, elle refuse de dire où Christian se cache. Elle est alors réincarcérée au Baumettes le 25 avril, durant 8 semaines. Son état se détériore rapidement.
Elle n'avait que 3 attitudes. Ou bien ça se passait en silence et en douceur, avec des accommodements qu'on lui a proposés, ou bien elle vivait ce qu'on a appelé d'une façon opportuniste une aventure. Par exemple, c'est un reproche qu'on lui a fait une grande journaliste parisienne dans un hebdomadaire entre guillemets de gauche. Elle lui a dit si elle avait été effectivement adulte, elle aurait rusé. Or, elle a choisi la troisième solution, qui était évidemment la plus difficile, la plus dure, qui était de dire vous prétendez que je suis coupable et je ne ferai surtout pas le cadeau de vous dire que je le suis.
Explique l'écrivain Michel Del Castillo, auteur d'un livre sur Gabrielle. Le samedi 20 juin, Michel Nogg, son ex-mari resté fidèle, l'attend à la sortie des Baumettes. Il récupère alors une pauvre bête traquée et tremblante. C'est dans ces circonstances qu'elle apprend le rejet de sa candidature à la faculté. On lui signifie qu'une personne en instance de jugement pour détournement de mineurs ne peut pas être qualifiée pour le poste. On lui réclame en plus le remboursement des salaires qu'elle a perçus pendant son séjour derrière les barreaux. Son avenir s'assombrit. Dans cet état de faiblesse totale, va-t-elle pouvoir s'occuper de Joël et Valérie ? Elle a déjà tant de mal à tenir le choc. Elle a perdu tout espoir, elle n'en peut plus. Son procès s'ouvre à huis clos le jeudi 10 juillet 69. Elle est condamnée à 500 francs d'amende et 12 mois de prison avec sursis. Mais Georges Pompidou vient d'être élu président et, comme le veut la tradition, il déclare une amnistie qui efface sa sentence. La fin du cauchemar approche.
Elle est heureuse. Elle m'envoie un télégramme. « Vive le soleil !» me dit-elle. « Antigone !»
raconte son avocat, Maître Guy. Dans une allée déserte du parc Borély, elle se jette dans les bras de Christian. Joie brève et ultime étreinte. Car le répit est de courte durée. Considérant la peine insuffisante, le parquet fait appel à minima dès le lendemain. Un second procès se profile, mais il n'aura pas lieu. Gabrielle ne tiendra pas jusque-là. Pour prendre du recul et retrouver un peu de sérénité, elle part en maison de repos près de Tarbes. Elle en revient le 30 août dans un état pire encore. Le 1er septembre, les pompiers la retrouvent inanimée sur son lit, gaz allumé, ouverture calfeutrée, morte d'avoir aimé.
Monsieur le Président, puisque vous avez permis qu'en fin de parcours, nous débordions un peu des questions fixées à l'origine, je voudrais vous interroger sur un fait divers. À Marseille, une femme, un professeur, 32 ans, est condamnée pour détournement de mineurs. Elle se suicide. Vous-même, qu'avez-vous pensé de ce fait divers qui pose, je crois, des problèmes de fond ?
Comprenne qui voudra. Moi, mon remords, ce fut la victime raisonnable au regard d'enfants perdus. Celle qui ressemble aux morts, qui sont morts pour être aimés. C'est de l'éluard. Merci, mesdames et messieurs.
Un an et demi plus tard, son histoire va bouleverser la France grâce au film d'André Cayat, Mourir d'aimer, où Gabrielle est incarnée par Annie Girardot. Charles Aznavour, Anne Sylvestre, Serge Reggiani écrivent des chansons en hommage à Gabrielle. Françoise Giroud, Benoît de Groux, Philippe Labrou et François Mauriac dénoncent l'acharnement de la justice et celle des parents du jeune homme. Dans l'unique entretien accordé à la presse à sa majorité, le 1er septembre 1971, Christian Rossi déclare
« Gabrielle, vous l'aimiez vraiment ?»«
Oui. »
« Et elle vous aimait aussi ?»«
Oui, je pense. » »«
Vous accusez qui ?»
J'accuse tout, enfin, surtout la société, toute la société, les juges, les parents bourgeois et réactionnaires.
Vous pensez vraiment que c'est cet appel à minima qui a conduit Gabrielle au suicide ?
À mon avis, c'est ça, et oui, beaucoup ça, et surtout, et aussi, si c'est vrai qu'elle a fait une cure de sommeil, la cure de sommeil.
Mais son désespoir, d'après vous, venait d'où ?
Du fait qu'elle avait été traumatisée par les juges, par les perquisitions, par chaque fois le recul du jour où on pourrait peut-être vivre ensemble.
Désormais père de famille, il a choisi de ne plus jamais s'exprimer. Ce texte, écrit par Isabelle Spack et adapté par Bénédicte Aubry et Elsa Delavergne, a été enregistré par Anne Vincencini. Mixage de Lucas Vibo. Merci de nous avoir écoutés. C'est la fin de cet épisode et de cette première saison de Fait d'hier. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes sur vos plateformes d'écoute habituelles, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Castbox. N'hésitez pas à les commenter, à les noter et rendez-vous dans quelques mois pour la saison 2.